Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre balado Décodage, le rendez-vous incontournable pour démystifier les principes de la gestion. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une réforme majeure qui promet de redéfinir les normes de santé et de sécurité au travail. Je parle en particulier de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail de 2021. Cette loi, longtemps attendue, vise à adapter les mesures de protection des travailleurs aux réalités contemporaines du monde du travail, avec des enjeux qui sont très diversifiés, allant de la prévention des risques professionnels à l'amélioration des conditions de travail. Bref, les répercussions de la loi sont vastes et elles méritent notre attention. Et pour explorer les tenants et les aboutissants de cette réforme, je reçois aujourd'hui ma collègue Elena Laroche, qui nous éclairera sur les ambitions de la loi, les changements qu'elle implique et la manière dont la loi façonnera l'avenir du travail. Alors Elena, je te laisse te présenter.
Merci Serge. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour avoir cette discussion. Je suis professeure au département de management en santé et sécurité du travail. J'ai effectué mes études en kinésiologie, mais ensuite en gestion de la santé et de la sécurité du travail. Je me passionne vraiment sur les éléments, surtout de prévention. Donc, comment faire en sorte que nos milieux de travail puissent appliquer des normes, des lois, mais aussi des bonnes pratiques en matière de gestion des lésions professionnelles.
Tes recherches portent, oui, bien sûr, sur les questions de santé et sécurité, mais je vois par l'objet, le sujet de notre entrevue aujourd'hui, la loi. Donc, tes recherches portent également sur des textes législatifs, en particulier cette loi-là.
En fait, ce que j'essaie de faire dans mes travaux, dans la majorité de mes travaux de recherche, c'est de voir de quelle façon est-ce qu'on peut trouver des moyens pour aider, outiller les milieux de travail à appliquer nos éléments législatifs, notamment. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut transférer ces données-là dans les milieux, faire en sorte que nos milieux de travail soient mieux outillés pour pouvoir les appliquer.
Alors, donc, l'entrevue aujourd'hui, donc cet épisode est un très bon exemple parce que le point de départ, ça va être un instrument législatif, un texte de loi. Et la loi, ben, je l'ai mentionné un petit peu dans notre introduction, c'est une loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Peut-être nous brosser un petit peu le contexte de cette loi, d'où elle vient, et puis quelques-uns de ses principaux objectifs, et puis le lien, bien sûr, avec le milieu du travail ou avec la gestion. Parce que toi, tu es d'abord et avant tout au département de management, comme tu l'as dit, donc il y a cette préoccupation de gestion-là. Donc, peut-être nous présenter un petit peu la loi et puis faire ce lien-là pour qu'on puisse voir comment les chercheurs, par exemple, en gestion, vont pouvoir s'appuyer sur elle pour ensuite modifier les manières de faire des entreprises.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut se retenir, je pense, d'abord et avant tout, c'est que la loi, ce sont des directives, des bonnes pratiques, mais des normes, des obligations aussi. Mais c'est un point de départ. Hein. Je pense qu'il faut le voir comme un point de départ dans les organisations. Les organisations souhaitent souvent mettre en application les éléments législatifs, mais ensuite, quand on a commencé par ça, ben, on souhaite toujours aller un peu plus loin pour pouvoir vraiment prévenir les lésions professionnelles. Donc, la loi, c'est une base. C'est une bonne base, hein? Mais c'est en réalité un minimum que l'on souhaite que les organisations mettent en place. Nos lois en santé et sécurité du travail au Québec dataient de nombreuses années. Hein? Nos lois avaient été établies en 1979-1985, nos principales législations, donc elles avaient peu évolué depuis cette période-là. Donc, c'est une réforme législative qui était vraiment très attendue par les milieux de travail, pour surtout élargir, je vous dirais, les obligations en lien avec la prévention. Donc, il y avait des mécanismes de prévention, de participation qui étaient prévus dans la première édition de nos législations. Mais là, ce qu'on a souhaité avec cette nouvelle, avec cette réforme, avec la LMRSST, hein, la loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment venir élargir les obligations. Et avant, c'était un certain nombre de secteurs d'activité qui devaient appliquer les lois, les obligations. Maintenant, c'est beaucoup plus d'entreprises qui auront cette obligation.
Ah, d'accord. OK. T'as évoqué un terme, peut-être faire une petite précision en passant. Tu parles notamment de mécanismes de prévention d'une part et puis ensuite de mécanismes de participation. Comment tu distingues les deux?
En fait, les mécanismes de prévention, on peut penser notamment aux programmes de prévention et aux programmes de santé qui sont des mécanismes de prévention prévus à la loi. Et quand on parle de mécanisme de participation, on va penser plus à la façon dont les travailleurs peuvent être impliqués dans la prévention. On va penser à ce moment-là au comité de santé et sécurité ou bien à des représentants en santé et sécurité qui sont aussi dans notre législation. Donc, ce sont des représentants des travailleurs qui sont là pour contribuer en matière de prévention.
Et tout ça, ça se déroule sous le regard, bien sûr, des gestionnaires. Les gestionnaires sont, en fait, les personnes qui sont ultimement responsables de veiller, à, en tout cas, à mettre en œuvre cela, c'est ça?
Oui, mais en fait, évidemment, la santé et la sécurité, c'est l'affaire de l'employeur. Les obligations, la majorité, ce sont les employeurs qui doivent les appliquer. Mais la santé et sécurité est un... doit nécessiter une prise en charge qui est partagée. Évidemment, la santé et sécurité, les obligations principales émanent, sont l'affaire de la direction, hein, de l'employeur, mais c'est une prise en charge que l'on souhaite vraiment paritaire. Donc, l'ensemble des personnes qui contribuent dans une organisation, que ce soit les travailleurs, leurs représentants, mais aussi on peut penser aux superviseurs, aux chefs de département, donc à l'ensemble des paliers hiérarchiques, si on veut, dans une organisation, c'est une responsabilité qui doit être partagée.
Alors, parle-moi un peu de ces changements majeurs que la loi apporte et qui n'était pas là avant, ou bien qui était là et puis qui n'était pas suffisamment intégré. Alors, quelles sont ces obligations, ces responsabilités et autres que la loi introduit?
Évidemment, on ne pourra pas évoquer ici aujourd'hui l'ensemble de ces modifications-là, hein, parce que les modifications ont été entérinées au mois d'octobre 2021, mais il y a une mise en place qui est vraiment graduelle de l'ensemble des différents changements. Donc, c'est un calendrier qui est établi sur environ 4 ans où les modifications vont être implantées tranquillement. Mais cette loi-là, la LMRSST, elle vient modifier plusieurs autres lois, la LSST, notamment la LATMP, mais elle vient modifier aussi la loi sur les normes du travail, elle vient modifier différents règlements aussi. Elle édicte des nouveaux règlements, elle abroge d'autres anciens règlements, donc elle a vraiment un impact qui est très large. Si on regarde du côté des principaux mécanismes de prévention, d'abord, il y a le programme de prévention hein, qui était déjà une obligation pour certains groupes paritaires et à une date à être déterminée par le gouvernement qui quand même qui se rapproche, là, on le souhaite bientôt. Le programme de prévention va être obligatoire pour l'ensemble des entreprises de plus de 20 travailleurs.
Et quand tu parles de programme de prévention, c'est un programme que l'entreprise doit mettre en place, c'est ça?
Oui, c'est un programme que l'entreprise doit élaborer, mettre en place, mais aussi appliquer et implanter, parce qu'on ne souhaite pas que ce soit un mécanisme qui soit uniquement un papier hein, pour se conformer à la législation. Ce que l'on souhaite, c'est que l'entreprise réalise les activités qui y sont prévues et que ce soit un programme aussi qui soit vivant. Hein. On veut qu'il soit mis à jour de façon régulière et qu'il s'adapte aussi aux réalités de l'organisation. Donc, c'est un programme qui est là pour venir, qui est un peu un plan d'action, hein, qui va venir soutenir l'ensemble des activités de prévention dans l'organisation.
Pour l'entreprise, il faut détecter les risques éventuels, c'est ça? Y a une question de gestion préventive des risques, ça doit être inclus dans le programme?
Oui, tout à fait. Le programme de prévention, il y a 8 éléments qui sont dans la législation qui sont obligatoires de mettre en place dans le programme de prévention. Mais c'est aussi, on peut le voir aussi comme une démarche hein, pour la réalisation d'un programme de prévention. Lorsqu'on fait cette démarche-là, une des premières étapes, c'est vraiment d'identifier nos risques. Donc, l'idée, c'est de pouvoir connaître notre milieu de travail, bien identifier les risques, tous les types de risques, hein, que ce soit les risques plus en lien avec la santé, les risques plus physiques, mécaniques, liés à la sécurité. Donc, c'est l'ensemble des risques qui doivent être identifiés dans le milieu de travail pour pouvoir aussi identifier les mesures de prévention et prioriser aussi dans quel ordre on va faire les choses là, pour avoir le maximum de prévention le plus rapidement possible, mais aussi tout en sachant et en convenant qu'on ne peut pas tout faire, tout faire en même temps, donc en établissant des priorités pour l'organisation.
Et donc, parallèlement à cela, on a aussi les mécanismes de participation qui sont une... je ne sais pas si c'est nouveau, mais bon, la loi organise également ces mécanismes-là.
Oui, ils ne sont pas nouveaux. Hein. Ils existaient déjà, mais maintenant, l'obligation s'étend davantage, un peu plus large. Le comité de santé et sécurité, notamment, il va y avoir des nouvelles modalités là, dans l'exécution du comité de santé et sécurité, mais je pense qu'il faut retenir globalement c'est que le comité va devenir obligatoire pour l'ensemble des organisations là, de 20 travailleurs et plus. Il y a aussi le représentant en santé sécurité qui avant s'appelait le représentant en prévention. Donc maintenant, c'est le représentant en santé et en sécurité qui va y avoir aussi des obligations là, en lien avec les fonctions de ce représentant. Et on a aussi ajouté l'agent de liaison en santé sécurité qui est une forme de représentant, mais pour les organisations de plus petite taille. Donc, tantôt, je parlais aussi du programme de prévention pour les organisations de 20 travailleurs et plus, mais le programme de prévention a aussi un petit frère qu'on a le plan d'action. En réalité, pour les organisations de moins de 20 travailleurs, l'obligation va être celle d'un plan d'action.
D'accord. Donc, toujours cette même idée donc, de plan d'action qui comprend aussi cette appréciation des risques en amont pour éventuellement les prévenir. Et donc, on comprend très bien qu'il y a la prévention. On comprend aussi qu'il y a la participation qui est un peu l'idée que tu mentionnais au départ, là, d'impliquer les parties prenantes. Donc là, on a des représentants ou les employés qui sont aussi invités à adhérer à ce plan global ou à cette vision globale d'assurer une meilleure santé, sécurité dans le milieu du travail. Donc, on a ces deux aspects-là qui marchent ensemble. Donc, ça, c'est un élément de la réforme. Il y a probablement d'autres. Tu l'as mentionné, c'est énorme, mais bon, on a abordé quelques-uns seulement. Il y a la question des indemnités également qui sont... prévues ou couvertes dans la réforme?
Oui, au niveau des indemnisations et tout ça, il y a des modifications qui sont assez importantes. Mais il y a d'autres modifications, si je peux me permettre, en matière de prévention qui sont quand même aussi importantes de mentionner, notamment en matière d'intégrité psychique. L'intégrité psychique a toujours fait partie hein, de nos législations, mais elle n'était pas nommée directement dans nos lois. Donc, avec la réforme législative, on est venu préciser la notion d'intégrité, hein, comme par exemple dans l'objectif de la LSST, qui est la Loi sur la santé et la sécurité du travail. L'objectif même de la LSST était d'éliminer à la source les risques et de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Mm-hmm. Maintenant, ça va être de protéger l'intégrité physique et psychique. Les travailleurs. Il y en a de même dans les obligations de l'employeur qu'on a ajouté la notion d'intégrité psychique. Donc, en réalité, ça vient renforcer un peu l'importance de cette dimension-là du travail dans l'ensemble des activités de prévention que l'organisation doit faire. Ça nous rappelle qu'on a aussi cette obligation-là en lien avec les risques psychiques. Si on pense aux principaux déterminants en lien avec l'intégrité psychique, on peut penser à la charge de travail, à la reconnaissance au travail ou toutes les autres dimensions qui sont aussi concernées là, dans la prévention. Il y a un élément intéressant qui a été ajouté aussi dans les obligations de l'employeur. En ce qui a trait à la violence, hein, quand on dit que l'employeur doit prendre des mesures pour protéger les travailleurs exposés sur les lieux de travail à la violence physique ou psychologique, mais on a ajouté aussi que cela comprend la violence conjugale, familiale et à caractère sexuel. Donc, on est venu préciser aussi cette obligation-là pour les employeurs.
Violence conjugale, il faut que tu m'expliques comment l'employeur peut gérer de façon préventive cette violence-là en milieu de travail. Parce que violence conjugale, par définition, c'est à la maison. Mais là, on dit qu'il a quand même une responsabilité. Là. Comment cette transposition de ce qui est enfin, conjugal versus ou vers le milieu de travail, comment ça s'opère et puis à quoi le législateur a pensé?
Oui, en fait, c'est vrai que ça peut paraître surprenant au premier abord, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que le milieu de travail devient souvent, parfois, le lieu où va s'exercer la violence conjugale. Dans un contexte de violence conjugale, l'agresseur va vouloir souvent rejoindre sa victime à un endroit précis, à un moment précis, mais le contexte de travail devient un lieu et un moment où l'agresseur sait que la victime est présente à ce lieu-là, à ce moment précis-là. Donc, le contexte de travail peut devenir un lieu où va se produire de la violence conjugale. Et en ce sens-là, c'est important d'intervenir aussi et de s'assurer de protéger la victime dans ce contexte-là. Mais ça peut aller aussi au-delà de ça, parce que les situations de violence conjugale sont parfois méconnues. On ne les voit pas, on ne connaît pas. Notre voisine de bureau peut être victime de violence conjugale sans qu'on le sache. Donc, dans les éléments de prévention qu'une organisation pourrait mettre en place, notamment, ça pourrait être de faire de la formation chez l'ensemble des employés ou chez les superviseurs, les directions, pour pouvoir mieux évaluer les situations où il pourrait y avoir de la violence conjugale et faire en sorte qu'il va y avoir une prise en charge.
Est-ce que cela signifie que l'employeur doit être en mesure, éventuellement, selon les circonstances, bien sûr, de détecter, mettons, que tel employé vit cette violence conjugale? Ça va jusque-là?
Oui, bien, en fait, ça peut faciliter. Hein. Ce qu'on souhaite, c'est d'éviter les situations de violence conjugale, évidemment, mais c'est aussi de protéger les victimes le plus possible. Donc, dans un contexte où la violence conjugale est détectée en milieu de travail, mais là, peut se mettre en place une cellule de soutien aussi, peut se mettre en place des mesures pour faciliter la vie de la travailleuse. Donc, si ça lui prend un numéro de téléphone confidentiel, si ça lui prend davantage de sécurité liée à son bureau. Mais si ça lui prend aussi parfois certaines mesures d'accommodement pour comprendre qu'elle puisse être en retard dans une situation ou dans un dossier donné. Donc, c'est de comprendre la situation pour pouvoir mettre en place des éléments qui vont pouvoir aider la personne là, victime de violence conjugale.
J'ignore comment ça, comment cette obligation ou cette responsabilité va être concrètement mise en œuvre, parce que en général, les situations, enfin en général, je ne veux pas généraliser, mais je veux dire, parfois, les personnes qui se retrouvent dans cette situation de violence conjugale, parfois, elles hésitent à dénoncer, et bref, on veut aussi le garder des fois pour nous-mêmes, on se dit que bon, et là, l'employeur, lui, il doit être conscient et, attentif à tout cela, à tous ces... tous ces éléments-là, et puis éventuellement... Je ne sais pas comment ça va se traduire, et puis la responsabilité qui, ultimement, incomberait à l'employeur, mais bon, la loi est nouvelle, on donnera une chance au coureur. Maintenant, à toi, donc, qui fais de la recherche en management et qui s'intéresse donc à ces questions-là, à ces textes législatifs, à ces obligations, comme tu l'as dit au départ, hein, c'est vraiment c'est un minimum là, qu'on veut assurer. On se dit que si les entreprises respectent ces différentes exigences-là, on a un milieu qui va être favorable à la santé et sécurité des travailleurs et tout. Maintenant, à partir de ce texte, de ces obligations-là, comment toi tu transfères tout ça au niveau de tes recherches là, pour, bien sûr, la mise en œuvre, pour accompagner éventuellement les entreprises qui devront assurer cette mise en œuvre. Comment ça se fait, ce transfert-là?
Oui, tout à fait. Bien, dans nos travaux de recherche, on s'intéresse à différentes populations dans différents contextes et on tente de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les bonnes pratiques soient réellement appliquées dans les milieux. Je vous donne un exemple. On a un projet de recherche présentement chez les pompiers pour voir de quelle façon est-ce que les bonnes pratiques de prévention liées notamment à la décontamination des habits de pompiers à la suite du combat d'un incendie, donc de quelle façon est-ce que ces bonnes pratiques-là sont appliquées dans les milieux. De façon générale, ce que l'on voit, c'est que oui, il y a une question d'habitude, de comportement des travailleurs, mais il y a aussi toutes sortes d'éléments en lien avec le contexte dans lequel s'inscrit le travail pompier. Si on est dans des petites municipalités avec les pompiers volontaires ou à temps partiel, mais c'est certain que les ressources ne sont pas toujours là non plus. Les guides de bonnes pratiques ne sont pas toujours connus. Les formations ne sont pas les mêmes. Donc, il y a un ensemble d'éléments contextuels, organisationnels qui vont influencer aussi sur l'adoption des bonnes pratiques. Donc, nous, ce qu'on s'intéresse, c'est qu'on va tenter d'évaluer les pratiques, l'application des pratiques, comment est-ce qu'elles se font, mais aussi et surtout les facteurs qui vont influencer l'application des bonnes pratiques pour ensuite mieux outiller les milieux de travail, faire des recommandations en lien avec l'amélioration de l'application des bonnes pratiques.
Ah, super, donc c'est une recherche qui est concrète, pratique. Il y a aussi le côté enseignement.
Oui, tout à fait. On a un nouveau programme à la FSA qui est un certificat santé, sécurité et mieux-être au travail, qui est un certificat offert entièrement à distance, qui vise à former des professionnels aptes à intervenir dans le milieu de travail pour faire de la prévention, de la gestion des lésions professionnelles.
Et tu dis un certificat, donc ça c'est...
C'est 30 crédits.
30 crédits, 30 crédits.
C'est un programme que l'on offre en collaboration avec le département des relations industrielles, qui comprend des cours sur le droit de la santé et de la sécurité du travail, sur l'ergonomie, sur les risques à la sécurité en milieu de travail, sur la gestion de la santé et de la sécurité du travail, de la prévention, sur l'intervention aussi là, en santé et sécurité du travail. Nous avons beaucoup d'étudiants intéressés par le programme, non seulement intéressés, mais qui se sont inscrits aussi au programme. Donc, le programme est ouvert depuis le mois de janvier 2022, mais nous avons vraiment beaucoup d'étudiants très intéressés par le programme. Donc, nous sommes présentement à développer notre offre là, pour bonifier notre offre et pour que nos cours soient offerts le plus souvent possible pour donner plus de flexibilité à ces étudiants qui sont aussi des travailleurs bien souvent à temps complet déjà.
Je suis sûr que le message sera entendu et que ce cours sera, ou ce certificat sera suivi, vu la complexité de la loi, et de ce besoin d'encadrement des entreprises, parce que ça va prendre pas mal de ressources pour assurer une mise en œuvre complète et réussie.
Oui, je vous dirais là-dessus que je pense que non seulement la loi, elle est plus étendue qu'avant, mais je pense que nos organisations ne peuvent plus passer à côté de la santé et de la sécurité du travail aujourd'hui, dans toutes ces dimensions. Hein. Il y a des milieux, même si on pense que c'est un milieu de travail de bureau qui a moins de risques à la sécurité, mais il y a tous les risques en santé psychologique qui s'ajoutent. Donc, on ne peut plus passer à côté de la santé et sécurité du travail en 2024, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des personnes formées, spécialisées dans ce domaine-là.
Je ne peux pas en dire plus. Alors, merci beaucoup, Elena.
Merci, Serge.